Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 2 juillet. Reconfinement pour 10 quartiers de Melbourne où l'épidémie de coronavirus semble repartie très fort. Des centaines d'arrestations à Hong Kong après une manifestation dénonçant l'adoption d'une loi imposée par Pékin sur la sécurité. Et la France qui tape du poing sur la table de l'OTAN après un incident entre une de ses frégates et la marine turque en mer Méditerranée. Et donc après le déconfinement, voici venu le reconfinement pour une partie des banlieues de Melbourne. Pour les 300 000 habitants de 10 quartiers différents, ils ne peuvent de nouveau sortir de chez eux que pour aller travailler, faire les courses ou aller se faire soigner ou encore pour faire du sport et ce jusqu'au 29 juillet prochain. Alors pour être très précis, on parle là des habitants se trouvant dans des zones correspondant aux codes postaux suivants: 3038, 3064, 3047, 3060, 3012, 3032, 3055, 3042, 3021 et 3046. Alors, vous le savez sans doute, cette réémergence du virus dans la deuxième plus grande ville d'Australie, elle serait due à des failles dans le dispositif de contrôle des personnes placées en quarantaine dans des hôtels. Et même à des manquements très graves, puisque d'après le quotidien Herald Sun, certains agents de sécurité auraient eu des relations sexuelles avec certaines personnes de retour de l'étranger et placées en quarantaine. D'autres de ces vigiles dormaient pendant leurs heures de travail, un travail pour lequel ils n'avaient par ailleurs pas reçu la formation appropriée. Bref, si ces affirmations sont confirmées, on a là affaire à un véritable fiasco. Et c'est sans doute pourquoi le ministre de la Santé, Greg Hunt, a annoncé hier soir sur Nine Network que des sanctions tomberaient et qu'elles seraient très lourdes.
These are very serious allegations and if they are found to be correct, the Victorian government should throw the book at them. We need to have a very clear response. The ADF is available as we have previously said if it's required by the Victorian government to assist with hotel quarantine.
Et 20 ans après son introduction, certains suggèrent qu'il est temps d'augmenter la GST, la version australienne de la taxe sur la valeur ajoutée. Mais le ministre de l'économie, Geoff Frydenberg, ne fait pas partie de cela. Il a même démenti tout projet de la part du gouvernement fédéral d'augmenter cette taxe, qu'on surnomme parfois en France la taxe la plus injuste du monde, puisqu'elle s'applique à tout le monde de la même manière, sans distinction liée à leur revenu ou à leur patrimoine. Alors en l'état actuel des choses, la TVA australienne est de 10%, mais elle ne s'applique pas à certains produits, comme par exemple les aliments frais, l'éducation ou encore les services de santé. Et pour revenir au ministre Josh Frydenberg, il a donc démenti hier soir sur Sky News tout projet d'augmentation de cette taxe. Il explique que la réforme fiscale sur laquelle travaille le gouvernement explore d'autres pistes, comme par exemple la réduction de l'impôt sur les entreprises.
No, look, we've no plans to increase the GST and we've been pretty consistent on that. Our focus is on lower taxes and today the company tax cut is one that we're talking about.
Allez, on passe au-dessus de la Tasmanie, direction la Nouvelle-Zélande, jusqu'ici saluée pour l'excellente gestion de la crise du coronavirus là-bas. Mais le gouvernement vient d'être ébranlé par une polémique qui a poussé le ministre de la Santé à démissionner. Et la raison de cette démission, c'est que ce ministre, David Clark, a été pris en pleine période de confinement en avril dernier, en train de faire un tour en vélo, puis ensuite une petite balade sur la plage. David Clark avait alors, à ce moment, immédiatement proposé sa démission à la première ministre Jacinda Ardern, mais qu'il l'avait refusée car elle avait encore besoin de lui. Et bien maintenant que le plus gros de la crise est passé, il estime qu'il est désormais temps pour lui de se retirer. Écoutez-le.
Things have moved on. Things are on a more stable footing now. I feel that now is the right time because COVID is going to continue to come in to our borders, to hit our borders. The pandemic is raging. It's so important that we get that response right. I don't want to be a distraction to that response.
Et on revient maintenant en Australie où la tension n'en finit plus de monter avec la Chine. Linda Reynolds, la ministre de la Défense, doit prendre la parole aujourd'hui à l'Australian Strategic Policy Institute pour accuser la Chine d'interférer et de perturber la région Indo-Pacifique. L'information a été révélée ce matin dans le Daily Telegraph et selon le quotidien, Linda Reynolds estime que la Chine n'a pas contribué positivement à la stabilité et à la sécurité de la région et à celle de l'Australie en particulier. Et d'ailleurs, la ministre entend également souligner que l'Australie est loin d'être le seul pays dans la région à se sentir menacé et elle compte appeler les autres États qui partageraient cette inquiétude à se faire connaître. Et ce discours, évidemment, il intervient à un moment clé puisque hier, le Premier ministre Scott Morrison avait lui annoncé une augmentation de 270 milliards de dollars du budget consacré à la défense nationale au cours des 10 prochaines années. Une augmentation du budget qui prévoit notamment l'acquisition de missiles à longue portée, des armes dont n'avait jusqu'à présent jamais été dotée l'armée australienne. Et parmi ces pays qui craignent la montée en puissance de la Chine, il y a en première position Hong Kong. La police a arrêté hier plus de 300 personnes qui étaient descendues dans les rues pour manifester contre l'adoption d'une loi imposée par Pékin sur la sécurité et qui, pour beaucoup d'observateurs, remet totalement en cause le principe d'un pays, deux systèmes. Parmi ceux-ci, il y a l'ancienne puissance tutélaire, le Royaume-Uni, qui a rétrocédé Hong Kong à la Chine en 1997. Et le dernier gouverneur de Hong Kong, Chris Patten, a pour sa part estimé que la Grande-Bretagne devrait se rapprocher de pays partageant les mêmes valeurs, à l'image de l'Australie, pour lutter contre la Chine.
What I think we should do is work with our allies, Australia, Canada, the United States, Europe, Japan, all of which have denounced what's happening in Hong Kong, and make clear that when China behaves reasonably, that's fine and we'll work with them. When they behave badly, we'll call them out. When they behave badly, there will be consequences, as there have to be. Otherwise, the 21st century is going to become increasingly unstable, increasingly less prosperous, and increasingly dangerous.
Et pour revenir sur cette fameuse loi sur la sécurité, elle a été dévoilée par les autorités chinoises à la dernière minute et surtout, elle est encore plus répressive que ce que certains craignaient. C'est par exemple l'avis de Jean-Philippe Béja, il est directeur de recherche au CNRS. Il a répondu aux questions de nos confrères sur Radio France Internationale.
Il faut bien voir que même le chef de l'exécutif de Hong Kong n'a pris connaissance de la loi que quelques heures avant qu'elle soit votée. Donc on ne fait pas du tout confiance aux agents de Pékin à Hong Kong. C'est une loi qui est beaucoup plus dure que même ce qui avait fuité avant, dans la mesure où la déclaration des crimes est extrêmement vaste. Quand on vous parle de subversion en Chine, subversion, ça veut dire simplement une critique à l'égard du Parti communiste, et c'est susceptible d'être sanctionné par la prison à perpétuité. Alors, pour ce qui est du terrorisme, par exemple, abîmer un moyen de transport public est considéré comme une activité terroriste. Donc, extrêmement large, et c'est quelque chose qui est une limitation énorme à la liberté d'expression, liberté de manifestation et les libertés sans doute de publication à Hong Kong.
Et on se tourne maintenant vers la Russie, où c'est le oui qui l'a largement emporté dans le cadre de ce vote constitutionnel organisé dans la semaine dans le pays et qui va entre autres permettre à Vladimir Poutine, le président, de se maintenir au pouvoir potentiellement pendant encore 2 mandats supplémentaires. On fait le point avec Daniel Vallaud de RFI.
Un oui massif et une participation au-dessus des 50%, ces résultats correspondent à ce qui était attendu par les autorités, tant ce scrutin organisé malgré le coronavirus. L'enjeu principal de ce vote était la possibilité pour Vladimir Poutine d'effectuer 2 nouveaux mandats et de rester au pouvoir, s'il le souhaite, jusqu'en 2036. C'est très important évidemment, mais il en a été assez peu question durant la campagne. Les partisans du oui préférant insister sur les valeurs conservatrices, traditionnelles, qui seront inscrites désormais dans la Constitution. Du côté des opposants à la réforme, c'est évidemment la consternation. consternation palpable ce mercredi soir sur la place Pouchkine à Moscou, où s'étaient donné rendez-vous plusieurs centaines de personnes. « Ce vote est illégal », disait l'une des manifestantes qui espère une mobilisation massive dans la rue dès la rentrée prochaine. « Difficile », disait cette habitante de la capitale russe, de se rassembler à l'heure actuelle en raison du coronavirus et de l'interdiction des rassemblements toujours en vigueur malgré la levée du confinement. Daniel Valo, Moscou, RFI.
Et direction maintenant les Caraïbes et plus précisément l'île de Cuba, où ces derniers jours, des dizaines de journalistes ont été assignés à résidence et des centaines de manifestants arrêtés après donc une manifestation qui a eu lieu mardi pour dénoncer les violences policières. C'est la mort d'un jeune homme lors de son interpellation par la police à la fin du mois de juin qui avait allumé l'étincelle. On va écouter les explications de Romain Le Maresquier, correspondant de RFI.
Au total, ce sont plus d'une trentaine d'activistes, selon la presse d'opposition, qui ont été arrêtés ce mardi ou placés en résidence surveillée par la police nationale révolutionnaire cubaine. Des opérations qui ont été menées principalement à La Havane, mais pas seulement, car des appels à manifester pour dénoncer les violences policières avaient été relayés un peu partout dans le pays. Des appels qui ne sont pas fréquents à Cuba, où les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher des manifestations non autorisées. Parmi les premières personnes à avoir été arrêtées se trouve l'opposant José Daniel Ferrer, l'un des plus notoires, qui a finalement été relâché quelques heures plus tard. D'autres opposants ainsi que des artistes et des journalistes indépendants ont également été arrêtés ou empêchés de sortir de chez eux. Tous voulaient dénoncer la mort le 24 juin dernier d'Ansel Hernandez, tué d'une balle par un policier dans le quartier de Guanabacoa, dans la périphérie de La Havane. Un meurtre selon la tante du jeune homme, ce que démentent les autorités qui assurent dans un communiqué que la victime, surprise en flagrant délit de vol, avait été poursuivie par des policiers sur qui elle jetait des pierres.
La tension monte au sein de l'OTAN et c'est la France qui met la pression. À l'origine de cette brouille, un incident survenu à la fin du mois de juin en mer Méditerranée entre des frégates turques et françaises. Et Paris, qui n'est pas satisfait de la réaction de ses partenaires au sein de l'organisation, a donc annoncé qu'elle se retirait temporairement de l'opération Sea Guardian, qui est notamment chargée du contrôle de l'embargo sur les armes visant la Libye. Je vous propose d'écouter l'analyse de Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie à l'Institut français des relations internationales.
Je pense que l'idée, c'est de forcer la main des partenaires de l'OTAN sur le dossier des relations avec la Turquie, de montrer que vraiment la France est très en colère et qu'elle veut une forme de solidarité pour dénoncer les agissements de la Turquie. Alors, les alliés n'ont pas forcément fait leur doctrine sur la situation politique et militaire en Libye. On a une division du pays et on a la France qui finalement avait pris parti pour le général Haftar qui a tenté la reconquête de la capitale Tripoli sur le gouvernement de Fayez al-Sarraj qui lui est issu d'une négociation internationale. Donc certains considèrent que la France est du mauvais côté du débat. Les Italiens ne sont pas forcément sur la position française. Les Allemands ont tenté d'organiser, comme vous le savez, une grande conférence de règlement de la question libyenne au début de l'année. Donc sont considérés comme une partie peut-être plus neutre que l'était la France. Donc finalement, il n'y a pas du tout de cohésion sur ce dossier libyen contre la Turquie.
Et on finit le journal en faisant un petit point sur la météo de ce jeudi. Il y a du soleil à Perth où il fait 18 degrés. En revanche, il pleut à Adélaïde où le thermomètre ne dépasse pas aujourd'hui les 14 degrés. 15 degrés à Melbourne, 23 degrés à Sydney où il y a du soleil mais aussi pas mal de vent. 24 degrés à Brisbane qui passe aujourd'hui la journée dans la tête dans les nuages. Il y a des averses à Cairns où il fait 27 degrés et ça monte même jusqu'à 32 degrés à Darwin où il fait aujourd'hui très très beau. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.